Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 4 janvier 2024. En direct de Washington, Idriss Assédoudia. Pour commencer les titres, l'ex-président Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, inculpé pour son rôle présumé dans une tentative de coup d'État. Les États-Unis appellent au respect de la souveraineté de la Somalie. En Ouganda, un éminent militant LGBTQ blessé à coups de couteau. Le chef du Hezbollah pro-iranien, Hassan Nasrallah, met en garde Israël contre une guerre avec le Liban. Nouvelle tournée du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Moyen-Orient. Ne manquez pas notre page sport, la Minute Écho ainsi que nos dossiers du jour. Pour l'instant, le journal. L'ancien président Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, qui a dirigé le pays de 2007 à 2018, a été inculpé hier pour son rôle présumé dans des attaques le 26 novembre, qualifiées de tentatives de coup d'État qui ont fait 21 morts. L'affaire a été ajournée au 17 janvier, Nathalie Barge.
Un important dispositif sécuritaire a été dressé près du tribunal de Freetown où était écouté M. Koroma. La justice sierra-léonaise a inculpé 12 auteurs présumés de tentatives de coup d'État, dont Ernest Bai Koroma, inculpé de 4 infractions. L'ancien président, assigné à résidence depuis le 9 décembre, a été interrogé plusieurs fois par la police. Le 26 novembre 2023, des hommes ont attaqué une armurerie, des casernes, prisons et postes de police, affrontant les forces de sécurité. Les combats ont fait 21 morts et environ 80 personnes, principalement des militaires, ont été arrêtées. Le 23 décembre dernier, une délégation de la CDAO, menée par les présidents sénégalais et ghanéens, a rencontré M. Koroma et le président Julius Maada Bio. Au cours du dernier sommet de l'organisation, les chefs d'État de la région ont engagé la commission à faciliter le déploiement d'une mission de sécurisation en Sierra Leone pour aider à stabiliser le pays. La CDAO a mis en place un dépôt logistique et d'approvisionnement de la force de paix ouest-africaine à Lungi, au nord de Freetown. Sa mise en service est prévue pour ce mois de janvier.
Le général Mohamed Hamdan Daglo, commandant des forces paramilitaires en guerre contre l'armée au Soudan, est arrivé mercredi au Kenya, nouvelle étape d'une tournée en Afrique de l'Est où se multiplient les efforts diplomatiques pour des négociations de paix. Le chef des forces de soutien rapide, FSR, a été reçu par le président kényan William Ruto, qui a salué son engagement à mettre fin au conflit au Soudan par le dialogue dans un message sur X. Les États-Unis ont rejeté hier mercredi toute reconnaissance du Somaliland et ont appelé au calme après la signature d'un accord entre cette région séparatiste et l'Éthiopie. Ce mémorandum d'accord signé lundi prévoit d'accorder à l'Éthiopie l'accès à 20 km de côte dans la République autoproclamée du Somaliland sur le stratégique golfe d'Aden pour une durée de 50 ans, Michel Joseph.
La Somalie a réagi à cet accord et a accusé Addis Abeba de porter atteinte à sa souveraineté. Elle a rappelé son ambassadeur en Éthiopie et juré qu'elle défendrait sa souveraineté par tous les moyens légaux. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République fédérale de la Somalie, a déclaré à la presse Matthew Miller, porte-parole du département d'État. Nous nous joignons à d'autres partenaires pour exprimer notre vive inquiétude quant à l'aggravation des tensions dans la Corne de l'Afrique, a-t-il ajouté. Nous exhortons toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue diplomatique, a-t-il insisté. Mardi, l'Union européenne a elle aussi insisté sur le respect de la souveraineté de la Somalie, clé de la paix dans la Corne de l'Afrique. Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, sans avoir obtenu pour l'heure une reconnaissance internationale. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, l'Éthiopie cherchait depuis 30 ans un accès à la mer qu'elle a perdue après l'indépendance de l'Érythrée en 1993, à l'issue d'un long conflit. Elle dépend désormais du port de Djibouti pour ses exportations et importations.
Un militant LGBTQ ougandais réputé a été blessé à coups de couteau mercredi par des inconnus circulant à moto alors qu'il se rendait à son travail, ont déclaré la police et un militant des droits humains. Steven Kabuye, 25 ans, a été blessé et laissé pour mort lors de l'agression qui s'est déroulée dans la banlieue de la capitale Kampala avant d'être secouru par des habitants, a précisé la police. Les défenseurs des droits de l'homme ont déjà alerté contre le risque d'agression contre les membres de la communauté LGBTQ en Ouganda après que le pays a adopté l'année dernière l'une des lois anti-gay les plus sévères au monde.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des élus républicains au Congrès américain veulent lancer une procédure de destitution contre le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qu'ils accusent d'être responsable de la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ils ont annoncé cette décision hier mercredi. Davantage de détails avec Nani Talani.
Cette annonce intervient alors que près de 10 000 migrants traversent chaque jour la frontière américaine depuis le Mexique et que le sujet est politiquement brûlant à quelques mois de la présidentielle de novembre. Les républicains qualifient la situation de désastre humanitaire et accusent le ministre de la Sécurité intérieure d'être à l'origine de la situation. Notre enquête a clairement montré que cette crise découle des prises de décision du ministre et de son refus d'appliquer les lois adoptées par le Congrès, a déclaré dans un communiqué Mark Green, le président de la Commission de la Sécurité intérieure de la Chambre des représentants. Son incapacité à respecter son serment exige qu'il rende des comptes, a-t-il ajouté. En réponse, le ministre de la Sécurité accuse les républicains de gaspiller du temps précieux et l'argent des contribuables dans une manœuvre politique. Pour qu'Alejandro Mayorkas soit démis de ses fonctions, une majorité de parlementaires de la Chambre des représentants doit voter contre lui, ce qui déclencherait un procès au Sénat pouvant aboutir si 2/3 des sénateurs votent en faveur à sa destitution. Le lancement de cette procédure de destitution n'en reste pas moins une épine dans le pied de Joe Biden, alors que 302 000 migrants ont traversé la frontière en décembre, selon les autorités.
Le secrétaire d'État américain partira ce soir pour le Moyen-Orient, alors que les États-Unis poursuivent leurs consultations diplomatiques sur le conflit opposant Israël au Hamas, a déclaré hier un haut responsable américain, ajoutant qu'Anthony Blinken irait également en Israël. Anthony Blinken se rendra dans un certain nombre de capitales ainsi qu'en Israël, a précisé le responsable qui a requis l'anonymat sans fournir d'autres détails. Il a indiqué que le médiateur américain Amos Hochstein se rendrait également en Israël pour tenter d'apaiser les tensions entre l'État hébreu et le Hezbollah. Tension à la frontière israélo-libanaise, le chef du Hezbollah pro-iranien a prévenu hier que son groupe se battrait sans limite si Israël déclarait la guerre au Liban au lendemain de l'élimination du numéro 2 du Hamas palestinien près de Beyrouth. Le point avec Abdourahman Dia.
Pour le moment, nous combattons sur le front de façon calculée, mais si l'ennemi pense lancer une guerre contre le Liban, nous combattrons sans limites, sans restrictions, sans frontières, a assuré Hassan Nasrallah dans un discours transmis en direct à la télévision. Nous ne craignons pas la guerre, a-t-il martelé. Son discours est intervenu au lendemain de la mort du numéro 2 du Hamas et de 6 autres responsables et 4 de la formation palestinienne dans une frappe attribuée à Israël qui les a ciblés dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. L'armée israélienne n'a pas revendiqué la frappe mais a affirmé mercredi se préparer à tout scénario. Depuis le 8 octobre, au lendemain du début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, Le Hezbollah lance des attaques quotidiennes contre Israël depuis le sud du Liban, mais cible notamment des positions militaires proches de la frontière. Jusqu'à l'attaque de mardi soir contre la banlieue de Beyrouth, Israël bombardait uniquement le sud du Liban. Les Nations Unies et plusieurs pays redoutent une escalade à la frontière entre le Liban et Israël qui pourrait aboutir à un élargissement du conflit dans la région.
Les États-Unis ont jugé absurde toute suggestion que les États-Unis ou Israël seraient impliqués dans l'attentat perpétré mercredi en Iran, près de la tombe de Qassem Soleimani, l'ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, dont l'Iran commémore le 4e anniversaire de la mort, selon des médias d'État. Au moins 103 personnes ont été tuées et plus de 211 blessées dans cet attentat. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a assuré qu'aucun pays n'avait intérêt à une escalade dans la région. Les États-Unis n'ont été impliqués en aucune façon. Toute affirmation contraire est absurde, a-t-il souligné à la presse. L'Iran a accusé Israël et les États-Unis d'être derrière l'attentat. La Minute Éco, Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, le coût de l'électricité pour tous les abonnés, ménages et entreprises doit augmenter de 10% cette année, selon le ministère de l'Énergie. Cette hausse devrait corriger le déficit de 10 francs CFA entre le prix de production du kilowattheure, qui est de 89 francs CFA, et son prix de vente de 79 francs CFA, et qui menace la disponibilité de l'énergie. Le prix du kilowattheure passera donc à 87 francs CFA, à en croire l'agence Ecofine. L'économie de la Mauritanie devrait croître à 5,1% en 2024, avant d'atteindre 14,3% en 2025, assure le FMI. Cette croissance sera tributaire de l'entrée en production du gisement gazier Grand Tortue à Niim, situé à cheval sur la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Pour terminer, en Libye, des manifestations locales ont entraîné mercredi l'arrêt total de la production du gisement pétrolier de Charara, qui peut produire jusqu'à 300 000 barils par jour, selon Reuters. Les manifestants ont dit que leur région a besoin de projets et de services de développement tels que de bonnes infrastructures routières et sanitaires, des emplois pour les jeunes et une raffinerie pour l'approvisionnement en carburant.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Wilfried Ndidi, forfait pour la CAN qui débute la semaine prochaine en Côte d'Ivoire.
Oui, le porte-parole des Super Eagles, Babafemi Raji, a déclaré que l'influent milieu de terrain nigérien a été remplacé par Al-Hassan Youssouf, qui est en bonne forme avec le Royal Antwerp, champion de Belgique. Wilfried Ndidi a manqué la victoire 4-1 de son équipe Leicester City en raison d'une blessure non spécifiée. Les Nigériens, triple champion d'Afrique, s'entraînent aux Émirats Arabes Unis en vue du tournoi. Ils sont logés dans le groupe A avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale qu'ils vont affronter lors de leur premier match le 14 janvier.
Youssef Attal condamné à 8 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine.
Ainsi en a décidé la justice française. Le footballeur international algérien de l'OGC Nice est sanctionné pour avoir partagé une vidéo appelant un jour noir sur les Juifs sur fond de conflit entre Israël et le Hamas. Poursuivi pour provocation à la haine à raison de la religion, il devra aussi s'acquitter d'une amende de 45 000 euros. Convoqué au sein de l'équipe nationale des Fenech en vue de la CAN, le joueur de 27 ans était absent au délibéré. 5 jours après des attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre et le début des bombardements d'Israël sur Gaza, Attal a partagé sur Instagram la vidéo d'un prédicateur Mahmoud Al-Hassana. Ce dernier y évoquait le sort des enfants de Gaza sous les bombes, appelant Dieu à envoyer, je cite, un jour noir sur les Juifs. Fin de citation.
En Afrique du Sud, Oscar Pistorius sort de prison vendredi.
L'ex-champion paralympique en liberté conditionnelle à partir de demain va sortir de prison près de 11 ans après le meurtre de sa compagne Riva Steenkamp. Avec l'interdiction de s'exprimer dans les médias, l'annonce est faite par l'administration pénitentiaire. Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu fin novembre une mise en liberté anticipée. La justice sud-africaine prévoit qu'un condamné puisse bénéficier d'une liberté conditionnelle une fois la moitié de sa peine écoulée. Le septuple champion paralympique, amputé des deux jambes, est entré dans la légende sportive aux Jeux olympiques de 2012 à Londres en s'alignant avec les valides aux 400 mètres. Il avait été condamné lors de son procès en appel en 2017 à 13 ans et 5 mois de réclusion. Après avoir abattu dans la nuit du 13 au 14 février 2013, sa compagne Riva Steenkamp à Pretoria.
Merci Yacouba.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante a reporté la publication des résultats provisoires des élections législatives prévues hier mercredi. Dans un communiqué publié mardi, la CENI a expliqué que ce report était motivé par le fait que la compilation des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales était toujours en cours. Pour en savoir davantage, Antoine Bolamba a joint à Kinshasa Jean-Baptiste Itipo, chargé de communication de la CENI.
En fait, le report se justifie notamment par la compilation en cours des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, ainsi que celles des conseillers communaux. Mais vous savez que ce sont les députés provinciaux qui sont les grands électeurs des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, mais aussi des sénateurs. Comme on ne les connaît pas encore, on ne devait pas commencer à convoquer l'électorat pour ces élections-là. Et donc, on termine la compilation des résultats provisoires et on va dérouler le calendrier. Certainement qu'il y aura un calendrier provisoire qui sera rendu public par l'Assemblée plénière de la CENI.
Par rapport à cela, est-ce que ça ne va pas encore impacter le reste du processus?
Pas du tout, dans la mesure où tous les scrutins prévus en 2024 seront organisés. Mais c'est vrai qu'on connaîtra un léger retard par rapport à la convocation de l'électorat pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs de province, mais aussi des sénateurs, simplement, comme je viens de le dire, du fait que les résultats provisoires de l'élection des députés provinciaux, notamment, n'est pas encore connu.
Dans l'entretemps, vous voyez dans le sens peut-être de ce que l'on a qualifié un peu de manque ou bien des irrégularités par l'opposition notamment par rapport à ce qui se passait. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la position de l'opposition de ne pas contacter la Cour constitutionnelle et de passer directement à l'application, bien vous voulez, à l'application de l'article 64 de la Constitution?
Bon, écoutez, ne pas aller vers la Cour, ça relève de ceux qui disent comme ça, mais il y a des voies légales qui sont des voies prévues dans la loi et dans la Constitution que les uns et les autres doivent, n'est-ce pas, utiliser pour faire valoir leurs droits. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, déjà fragilisée par la guerre. Il faut privilégier ce patrimoine commun et ne pas créer d'autres mouvements inutiles. Donc nous invitons les uns les autres à saisir les voies légales prévues dans la loi électorale et dans la Constitution.
Joint à Kinshasa, Jean-Baptiste Itipo, chargé de communication de la CENI.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur les récentes élections en République démocratique du Congo, dont la présidentielle, remportée par le chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi. Une victoire rejetée par l'opposition. Le scrutin soulève-t-il des interrogations sur l'intégrité du processus électoral et la stabilité future de ce grand pays d'Afrique centrale, déjà confronté à une sempiternelle crise sécuritaire? Washington Forum. Rome ce jeudi à 19h10.
Au Tchad, le nouveau Premier ministre de transition, Sixé Masra, a rapidement dévoilé son équipe gouvernementale, marquant une continuité avec quelques entrants. Chargé de résoudre les crises internes et d'organiser des élections, ce gouvernement doit restaurer la stabilité et persuader les enseignants à reprendre les cours après une longue période de fermeture des écoles. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Addis Abeba le professeur et écrivain tchadien Koulsi Lamko.
Cela donne l'impression d'un nouveau souffle à s'y méprendre. Mais il s'agit véritablement simplement de légitimer la succession dynastique au Tchad. Pour beaucoup de patriotes tchadiens et de panafricanistes, c'est un non-événement, une espèce de remake du déjà vu. Mais ce qui est intolérable, c'est que l'on passe sous trappe de centaines d'enfants martyrs très sauvagement assassinés en octobre dernier. On libère les assassins, on absout les donneurs d'ordre et tout cela pour en arriver là. Et quant à la constitution promulguée, finalement, combien de Tchadiens l'ont lu ? Encore un de ces textes tissus vermoulus de copier-coller d'articles auxquels le peuple ne comprend rien. L'aboutissement d'une chronique de constitution annoncée.
Comment évaluez-vous la capacité de ce nouveau gouvernement sous la direction de Succès Mastra à résoudre les crises multiples auxquelles est confronté aujourd'hui le Tchad ?
Je n'attends pas non plus grand-chose de ce qui se pourrait changer véritablement le pays. Parce qu'au Tchad, l'histoire bégaye toujours et on a raté une fois de plus l'occasion de refonder le pays pour partir sur des bases épurées de sorte que l'on puisse mettre fin à toutes ces violences-là. Tant que l'on n'aura pas compris que seul un État fédéral pourra résoudre les problèmes d'hégémonie clanique, de corruption larvée et de suprématie d'un clan, de clientélisme rampant, ben on continuera à être ce paquebot du désert.
Dans quelle mesure l'inclusion de Succès Mastra à la tête du gouvernement peut-elle répondre aux attentes des partenaires internationaux du Tchad et contribuer à stabiliser la situation politique et sociale du pays, notamment la préparation des élections de fin de transition?
Les partenaires internationaux, on n'en attend rien. Ce que l'on souhaiterait, c'est qu'enfin, le Tchad ait une certaine souveraineté qui permet que le peuple lui-même organise son développement. On est loin d'être libéré de ce système françafricain avec ses officines lugubres et occultes qui a pris en otage nos souffles, nos têtes et nos bras. Et c'est cela qu'il faut stigmatiser. Quant à la préparation des nouvelles élections, je ne suis pas Madame Soleil, mais on peut bien s'attendre à ce que l'on nous annonce très bientôt que la transition a été prolongée de quelques années encore.
C'était le professeur et écrivain tchadien Koulsi Lamko, joint à Addis Abeba.
VOA Afrique, Djamina, c'est 93.1 FM au Tchad.
Durement touché par une crise sécuritaire, le Burkina Faso constitue un environnement difficile pour les journalistes, avec des questions telles que le viol et la violence sexuelle, des sujets souvent tabous. Mais Mariam Ouedraogo s'efforce de fournir une tribune d'expression à travers ses reportages aux personnes touchées par les troubles. De passage à Washington pour recevoir un prix, elle a parlé de sa carrière avec Salem Salomon de VOA, récit Blanche Sanou.
Basée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, Mariam Ouedraogo se concentre sur ses reportages pour le quotidien citoyen. La journaliste burkinabé a bâti sa carrière en mettant en lumière des problèmes sociaux souvent négligés qui affectent sa communauté. Dans ses reportages sur l'éducation, la santé et l'insécurité, elle s'intéresse à la manière dont les femmes, les enfants et les personnes handicapées sont touchées.
La motivation de Mariam Ouedraogo, le désir de faire une différence grâce au journalisme.
C'est parce que j'ai voulu changer les choses.
C'est une approche qui a valu aux journalistes une reconnaissance nationale et internationale, notamment le prix Knight Award remis à Washington en 2023. Pour Mariam Ouedraogo, chaque prix est une opportunité d'amplifier les voix de ceux qui sont invisibles, y compris les survivants des conflits et des viols.
Mariam Ouedraogo, axe d'Ablokaya.
Mariam s'est également distinguée en recevant le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre, la première femme africaine à remporter ce prix. L'instabilité au Burkina Faso est au cœur d'une grande partie de ses reportages. Selon Mariam Ouedraogo, les récits recueillis auprès des survivantes de viol que les extrémistes utilisent comme armes pèsent lourd.
C'est inimaginable ce qu'elles ont enduré comme souffrance et moi, ça me marque. Quel que soit qu'il y ait grossesse ou pas, le simple fait qu'elles soient agressées sexuellement et souvent par plusieurs.
Mariam Ouédraogo évoque aussi ses propres luttes contre ce que l'on appelle communément le stress post-traumatique.
Je me voyais violée à leur place. À chaque récit, chaque cas, c'est comme si je me faisais violer à leur place.
Faire des reportages peut être difficile dans un pays connu pour son environnement médiatique restrictif. Les journalistes comme Mariam Ouédraogo sont confrontés à des restrictions de mouvement et à des tabous sociétaux, en particulier sur des sujets comme le viol et la sexualité.
On n'en parle pas. On préfère, voilà pourquoi les victimes se taisent. Elles n'aiment pas raconter. Parce qu'il y a le regard de la société qui est là. Non seulement tu es victime, et tu seras répudié aussi, stigmatisé.
Décrivant son processus de collecte d'informations comme un témoignage, Mariam Ouédraogo encourage davantage de femmes à devenir journalistes, affirmant que les femmes apportent des perspectives uniques aux communautés marginalisées. Elle souligne le potentiel du journalisme dans les changements positifs.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Cette année, le Sénégal est devenu le premier pays d'Afrique de l'Ouest à placer certains détenus sous surveillance électronique dans le cadre des efforts visant à réduire la surpopulation carcérale, un problème très répandu sur le continent. Pour les sceptiques, la mesure exclut les personnes n'ayant pas accès à l'électricité et ne résout pas les inefficacités sous-jacentes du système pénitentiaire. Le gouvernement rejette ces allégations. Nani Talani nous en dit plus.
8 mois après son arrestation à Dakar, capitale du Sénégal, une détenue enceinte a été escortée au tribunal pour ce qu'elle pensait être enfin le début de son procès pour avoir été en contact avec un fabricant de fausse monnaie. Cette femme de 42 ans avait passé la majeure partie de sa grossesse dans des cellules de prison surpeuplées, partageant son matelas avec 3 autres femmes et espérant, à mesure que sa grossesse avançait, être au moins libérée sous caution pour que le bébé ne naisse pas en prison. Au lieu de cela, les juges lui ont proposé une alternative inattendue. Rentrer chez elle avec un bracelet électronique.
C'est dur, vraiment c'est dur. Parce que tu sais, la femme, c'est elle, quand la femme a quitté son mari, quitté sa maison pour aller en prison, c'est un peu dur.
Le Sénégal cherche activement à résoudre la question de surpopulation carcérale avec des peines alternatives.
Ça permet de résoudre d'abord la surpopulation carcérale. Parce que nos prisons sont quand même sont surpeuplées. La deuxième chose que je vois et que je constate, c'est que ça permet aussi de lutter contre les longues détentions provisoires.
Certains détenus pensent que les bracelets électroniques ne règlent pas tous les problèmes.
Oui, bon, moi je pense que c'est une bonne initiative, mais bon, il devrait chercher à l'améliorer. Pour des gens, imagine des fois t'as un décès, comme j'ai eu des décès récemment que je ne pouvais pas aller assister. J'étais obligé de rester chez moi, bien appelé pour donner mes condoléances. C'était des gars très proches.
Pour la société civile, le port du bracelet électronique empêche presque les détenus de vivre pleinement leur vie. La surpopulation carcérale en Afrique est liée à l'insuffisance de personnel et de formation, à des installations archaïques et insuffisantes, à une culture de détention systématique, au fait que les prisonniers ne sont pas libérés sous caution en raison de l'absence d'adresse officielle et surtout à la nécessité d'augmenter les budgets des ministères de la protection sociale. Par ailleurs, la détention provisoire dépasse souvent les délais légaux en raison du manque d'avocats et de magistrats, ce qui signifie que certains détenus peuvent attendre des années avant d'être entendus par un juge.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex-Twitter, et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.